Bien. Ça va, vous êtes sans forme? Oui. Il est bien, il fait trop chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage biblique. Nous allons lire d'abord un premier verset qui va nous découvrir cette personne. Et puis, nous allons aussi laisser conduire ensuite. Nous lisons dans Luc, chapitre 8, les trois premiers versets. Et je le lis, si vous n'avez pas votre Bible immédiatement ouverte. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéris de diverses maladies. Deux points. Il énumère quelques-unes de ses femmes. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Donc ce passage évoque plusieurs femmes qui accompagnaient Jésus et les 12 apôtres. Et parmi ces femmes figure une certaine Marie de Magdala dont nous allons parler ce matin. Alors Marie venait probablement de la petite ville de Magdala qui est sur le rivage ouest de la mer de Galilée. Bon, je suppose qu'on associait cette ville à son nom à cause de son appartenance. Alors dans une première partie, nous allons simplement faire connaissance de ce que la Bible nous dit de Marie de Magdala. Alors on trouve, sauf erreur de ma part, 13 passages qui parlent, ou qui nomment, qui parlent de Marie de Magdala, ou qui la nomment en passant. Et ils sont tous dans les évangiles, ils se recoupent, ce qui fait que le nombre de versets utiles a plutôt tendance à diminuer. On peut dire, pour parler comme à Cannes, que Marie de Magdala joue un rôle secondaire, un second rôle, mais que ce second rôle, nous allons essayer de le voir, est tout à fait intéressant pour notre lecture et pour ce qu'on peut en tirer. Alors, le verset que nous venons de lire nous apprend que Marie de Magdala faisait partie d'un groupe de femmes que Jésus avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Plus précisément, de Marie de Magdala, il avait chassé 7 démons. Alors, d'ores et déjà, on peut peut-être enregistrer que Marie de Magdala a eu, dans une partie de sa vie, dans une première partie de sa vie, un parcours qui sortait déjà de l'ordinaire. Et le verset lu à l'instant nous apprend que Marie, du moins à ce moment-là, suivait Jésus dans son ministère. Et comme les autres femmes citées, elle l'assistait ainsi que ses disciples de ses biens. On ne sait pas si elle était riche. J'aurais tendance à penser qu'elle avait une certaine aisance, c'est ce que suggère le mot « assister ». Mais ce n'est pas certain. On se souvient par exemple, dans d'autres circonstances, d'une pauvre veuve qui avait déposé 2 petites pièces dans le trésor du temple, et son action avait été appréciée positivement. On retrouve Marie de Magdala à la croix et près du tombeau de Jésus. Par exemple, je vous lis Matthieu 27, versets 55 et 56. Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'était celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Par parenthèse, on peut dire qu'il faut essayer de ne pas se perdre dans les Maries dans le Nouveau Testament, il y en a 6. Hein. Donc là, nous parlons de Marie de Magdala, et dans la phrase que je viens de lire, il y en a déjà une autre. On pourrait lire 2 autres passages, l'un dans Marc 15, l'autre dans Jean 19, j'ai dit que les passages se recoupaient. Et ces deux passages, ils confirment le verset initial que j'ai lu. Ils n'apportent qu'une seule précision, que dit l'un d'entre eux dans Marc, c'est que beaucoup d'autres femmes étaient montées avec Jésus à Jérusalem, là, dans l'arrière-plan de ce qu'on est en train de lire. Quelques heures plus tard, on retrouve Marie de Magdala devant le sépulcre de Jésus. Par exemple, dans Matthieu, au verset 26, chapitre 26, verset 60, chapitre 27, verset 61, on est près du sépulcre, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe. Donc elle était à la croix, elle était un peu plus tard près du sépulcre, et on la retrouve enfin, peu après la résurrection du Seigneur. Et c'est à elle que Jésus apparaît pour la première fois. Je vous propose de lire Marc, chapitre 16, verset 9. Je vais vous le lire. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord en première position à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Je réserve un dernier verset dans Jean 20 que je lirai plus tard, mais au point où nous en sommes, compte tenu de que les versets se recoupent, nous avons pratiquement fait le tour des passages qui mentionnent Marie de Magdala dans le Nouveau Testament. Je viens d'en mettre un en réserve. Un autre sera évoqué dans la partie 2, et puis, comme je l'ai dit, quelques autres ne seront pas lus parce qu'ils n'apportent rien de nouveau par rapport à ceux qui sont lus. Ça veut dire qu'on peut chercher, on ne trouve pas grand-chose de plus sur Marie de Magdala dans le Nouveau Testament. Je précise ça parce que, par parenthèse, certains ont peut-être en tête certaines lectures ou certains films, parce que plusieurs romanciers ou cinéastes ont créé des œuvres à succès autour de la vie de Marie de Magdala. Mais comme la plupart ont largement extrapolé par rapport au texte biblique, nous allons essayer de nous en tenir strictement à ce que nous avons lu, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. À partir de là, je vais développer deux parties. Dans l'une, je reviendrai sur les trois périodes signalées dans le début de cette prédication concernant la vie de Marie de Magdala, au temps de la vie de Jésus, au moment de sa mort et après sa résurrection. Chemin faisant, je poserai trois jalons. Et puis dans l'autre partie, j'en ai annoncé deux pour la suite, je donnerai quelques mots de conclusion. Donc, on va essayer d'envoyer, c'est fait, la diapositive suivante. Donc, je reviens sur quelques aspects concernant les trois périodes signalées précédemment dans la vie de Marie Magdala. D'abord, au temps de son itinérance avec Jésus. Eh bien, au risque de se répéter, les femmes assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Marie de Magdala suivait donc Jésus. Ah, d'autres personnes ont, c'est raconté dans le Nouveau Testament, sollicité la faveur de suivre Jésus et cela ne leur a pas toujours été accordé. Par exemple, dans Marc 5, un homme qui avait été libéré, non pas de sept esprits mauvais, mais d'une légion, c'est-à-dire une armée d'esprits mauvais, a demandé à suivre Jésus après qu'il ait été délivré. Mais ce dernier l'a renvoyé chez lui pour qu'il proclame ce que Jésus avait fait pour lui. Marie de Magdala, dans cette itinérance, était probablement heureuse de faire quelque chose pour rendre moins pesant le fardeau de la vie quotidienne de celui qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête. Alors, qu'aurions-nous fait à la place de Marie de Magdala? Aurions-nous assisté Jésus de nos biens? Nous sommes, sollicités de toutes parts, certes, mais peut-être devons-nous garder présent à l'esprit l'exemple de service que nous laissent plusieurs personnes mentionnées dans le Nouveau Testament. Par exemple, Dorcas, Tabitha, c'est la même personne, qui donnait de son temps et de son travail pour le Seigneur, nous raconte Acte 9. Barnabas, qui vendit son terrain pour la communauté de Jérusalem, nous raconte le chapitre 4 des Actes, et probablement d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit. Cette vie consacrée a mené Marie de Magdala à partager les difficultés de Jésus, à le suivre peut-être quand ses disciples n'avaient ni le loisir de se reposer, ni même celui de manger, comme nous dit Marc 6. Peut-être quand les habitants de Nazareth voulaient précipiter Jésus du haut d'une montagne, nous dit Luc 4. Peut-être quand les Juifs ramassaient des pierres pour le lapider, dit Jean 10. Telle était la condition de Marie de Magdala. Alors, tous ceux qui suivent Jésus ne sont pas forcément précipités d'une haute montagne ou lapidés. Mais nous ne devons pas non plus rejeter l'idée de souffrir pour et avec Jésus. Et en un sens, nous devons nous y préparer. L'engagement de Marie de Magdala à suivre Jésus touchait au plus profond de sa vie. Elle avait sous les yeux un exemple parfait de piété, de charité, d'humilité, de vie céleste. Et suivre Jésus, c'est s'engager, on le sait, à l'imiter. Et cet engagement à imiter Jésus, il vaut pour nous aussi. Compte tenu de ce que nous avons lu et que j'ai tenté de synthétiser, il me semble que le premier jalon que nous pouvons poser à l'exemple de Marie de Magdala, c'est clairement le jalon du service. Marie de Magdala était une servante de Dieu. Maintenant, Marie de Magdala au moment de la mort de Jésus. Alors, en quelques heures, tout bascule. Jésus est trahi, arrêté, jugé, condamné, crucifié. En un mot, il est, comme le dit le Nouveau Testament, mis au rang des malfaiteurs. Et que devient Marie de Magdala ? Eh bien, elle fait partie du groupe de femmes qui suit Jésus jusqu'à la croix. Elles sont plusieurs, au moins trois à un certain moment, peut-être plus. Elles regardent de loin, nous apprend Matthieu 27, qu'on a déjà lu. Je vais citer un théologien qui s'appelle Alfred Bonneau. Bon, ce n'est pas un contemporain, il a vécu dans les années 1800 et quelques, puis en 1850, il a écrit un livre sur Marie de Magdala. Alors, parlant de Marie Magdalene, comme quelques autres, c'est ainsi qu'il l'appelle, il écrit « L'amour de Marie, c'est l'amour non de tel disciple, non de telle ou telle catégorie de disciples, mais de l'Église tout entière pour son sauveur crucifié. Cet amour, Marie le témoigne non en apôtre par une profession publique, telle que le fit autrefois Simon-Pierre, mais en femme par sa présence, par ses larmes, par sa sympathie. Et il ajoute, si Jésus souffre pour Marie, Marie souffre avec Jésus. » Fin de citation. Alors Marie de Magdala, elle entend les outrages des prêtres, elle entend les railleries des bourreaux, elle entend la prière du brigand repenti, elle entend le dernier soupir de Jésus, elle entend la confession du centenier, elle se souvient peut-être des sept démons que Jésus a chassés de son corps et de sa vie, elle l'aimait vivant comme son libérateur, elle l'aime mort comme son sauveur. Alors une question pour nous, est-ce que nous nous souvenons constamment de Jésus mort pour nous ? Est-ce que nous revenons constamment au sens de la croix ? Autrement qu'épisodiquement, même si c'est chaque dimanche le cas, avons-nous en tout temps un amour vibrant pour Jésus ? Et le deuxième jalon que nous pouvons poser, à l'exemple de Marie de Magdala, c'est celui de l'amour. L'attitude de Marie de Magdala nous suggère fortement, même si ce n'est pas dit explicitement, c'est facile à comprendre en lisant entre les lignes, et le commentaire d'Adolphe Monod nous invite aussi à poser ce jalon de l'amour. Enfin, Marie de Magdala, après la résurrection de Jésus. Alors, Jésus avait annoncé qu'il mourrait, qu'il ressusciterait le troisième jour. Est-ce que Marie de Magdala l'avait compris? Et il me semble que le fait qu'elle apporte des aromates, le fait qu'elle se plaigne dans Jean 20, « On a enlevé le Seigneur de sa tombe et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis », montre plutôt que Marie de Magdala cherche Jésus mort plutôt que vivant. Peut-être pressentait-elle, comme Marthe, qui parlait de son frère Lazare, qu'il reviendrait à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Mais j'ai un peu le sentiment qu'elle cherchait un mort plutôt qu'un vivant ce matin-là. Mais l'incroyable se produit. Et là, je vais lire le passage que j'ai mis en réserve, qui est la dernière lecture que je ferai dans Jean 20, au verset 11 à 16. Il est question simplement d'une Marie, dans ce que je vais lire, mais si on vérifie bien au début du chapitre 20, c'est bien Marie de Magdala dont il est question. Pendant ce temps, Marie se tenait hors du tombeau et pleurait. Nous sommes le dimanche matin. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui diraient, « Pourquoi pleures-tu ?»« On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-il, tel, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ?»« Pourquoi pleures-tu ?» lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu ?» Et pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabboni !» Ce qui veut dire « Maître ». Ça m'a fait penser qu'en écoutant François, lorsqu'il a parlé du propriétaire, j'ai pensé à Rabouni, c'est-à-dire maître. Marie de Magdala, celle dont Jésus avait chassé les sept démons, devient la première personne qui parle avec Jésus ressuscité. Le dialogue, on vient de le lire, il est bref et profond. Marie lui dit Jésus, il la connaissait par son nom. Maître! Rabouni, maître, lui répondit Marie. Et dans ce mot maître, il y a, à mon avis, de l'affection et du respect à la fois. Et pour donner une deuxième et dernière fois la parole à Adolphe Monod, qui continue à voir dans Marie de Magdala une image de l'Église, il dit qu'elle constitue, je cite, les prémices de l'Église consolée. La première voix terrestre qui ait frappé l'oreille de Jésus, ressuscité, est la première oreille humaine que la voix de Jésus ressuscité a rendue attentive. Première voix terrestre qui a frappé l'oreille de Jésus ressuscité et première oreille humaine que la voix de Jésus ressuscité a rendue attentive. L'expérience inoubliable que Jésus a réservé non à l'un de ses apôtres, mais à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Je termine la lecture du passage que j'ai lu il y a trois minutes. Jean 20, 17-18, le dialogue entre Marie de Magdala et Jésus se poursuit. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Et Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur rapporta ce qu'il avait dit. Envoyée auprès des apôtres pour annoncer ce qu'elle avait vu et entendu, Marie de Magdala devint donc, par la volonté de Jésus, le premier témoin de sa résurrection. Marie de Magdala est parfois connue comme étant, guillemets, l'apôtre des apôtres. Plusieurs pères de l'Église la désignent ainsi sous cette expression un peu curieuse, l'apôtre des apôtres. En réalité, cette expression est conforme à l'étymologie. En effet, un apôtre, c'est tout simplement un envoyé. Alors, comme Marie a été envoyée par Jésus auprès des apôtres, elle est devenue, de ce fait, l'apôtre des apôtres. Pour être totalement exact, il faut signaler que quelques autres femmes ont porté la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus aux apôtres. C'est Luc 24 qui nous l'apprend. Mais, Marie de Magdala est parmi ces femmes la seule dont il nous est dit que Jésus l'avait mandatée pour aller avertir les âmes. Et le troisième jalon que nous pouvons poser, c'est celui que je choisis de poser à l'exemple de Marie de Magdala, est clairement celui du témoignage qui a consisté pour elle à dire « J'ai vu le Seigneur ». Nous passons à la troisième et dernière partie, dans laquelle je tente quelques mots de conclusion. Et je vous fais part de mon ressenti. On ne peut qu'envier, c'est ma position, l'expérience de Marie de Magdala, celle qui suivit Jésus, celle qui était près de sa croix, celle qui fut le premier témoin de sa résurrection. Pourtant, elle avait dû connaître, avant que Jésus ne chasse d'elle ces sept démons qui entravaient sa vie, des moments difficiles. Alors on peut se demander s'il faut avoir connu la condition première de Marie de Magdala pour connaître ensuite une communion aussi profonde que celle qu'elle a eue avec Jésus dans la deuxième partie de sa vie. Faut-il revenir de très loin comme Marie de Magdala pour connaître ensuite cette proximité avec Jésus que chacun aimerait connaître? Alors, regardons une première raison, un peu suggestive, en imaginant une chaîne de personnes qui défilent devant nos yeux. Constituons cette chaîne qui pourrait se prolonger indéfiniment. La femme pécheresse que nous présente Luc 7, elle n'a pas été délivrée de sept démons. Mais Jésus dit d'elle que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Luc 7, 47. Pierre n'a pas eu, comme la femme pécheresse, à rompre avec des péchés grossiers et pourtant ce ne l'a pas empêché de renier son maître trois fois, comme le racontent plusieurs fois les évangiles et l'Épître aux Hébreux en particulier. Paul n'a pas, comme Pierre, renié son maître. Et pourtant, il écrit « Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs » et il ajoute « Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Je suis pour ma part, le premier d'entre eux, le premier des pécheurs. » écrit-il dans 1 Timothée 1,15, etc., etc. On pourrait prolonger la chaîne autant qu'on veut, jusqu'à nous, par exemple. Donc, point n'est besoin d'avoir un parcours sortant de l'ordinaire pour connaître avec Jésus la communion qu'a eue Marie de Magdala. Alors, cela dit, et ce sera une deuxième raison, même si notre condition humaine est moins spectaculaire que celle de Marie de Magdala, elle est en un sens aussi peu reluisante et nos démons valent bien ceux de Marie de Magdala, même s'ils sont moins visibles. je laisse une dernière fois, j'ai dit tout à l'heure que c'était la dernière, mais je me suis trompé, la dernière est maintenant la parole à Albert Monod, qui va nous adresser, à travers les années, des propos assez durs. Il écrit « Et vous, qui vous croyez si fort et au-dessus de Marie de Magdala au sept des mers, vos démons à vous, présents ou passés, votre incrédulité, votre avarice, votre égoïsme, votre convoitise, votre vanité, votre impureté peut-être, en voilà six, c'est pas moi qui le dis, c'est Adolf Monod, en voilà six, ne valent-ils pas les siens ? Et Adolf Monod poursuit en disant, j'ai gardé pour le dernier, le septième, le plus mauvais de tous, votre orgueil, qui vous fait croire que vous êtes meilleur qu'elle. Dur, c'est Adolf Monod, je les prends pour moi. Dur, mais également encourageante. Car si elle montre que nous ne sommes pas meilleurs que Marie de Magdala, elle nous rappelle donc que nous sommes de la même nature qu'elle et qu'il n'y a pas d'impossibilité à ce que nous vivions ce qu'elle a vécu dans la deuxième partie de sa vie. Et dans la deuxième partie de sa vie, pour terminer ultimement, je rappelle les trois jalons qui ont été posés au cours de la prédication. Ces jalons ont valeur d'exemple pour nous. Marie de Magdala a eu une vie de service tournée vers le Seigneur. Elle a eu une vie marquée par l'amour pour Jésus. Elle a reçu un ministère de témoignage de la part de Jésus. Et dans ces trois domaines, le service, l'amour pour Jésus, le témoignage, Marie de Magdala, notre grand second rôle, hein, j'ai dit second rôle, mais j'ai essayé de prouver que ce rôle était intéressant, mais Marie de Magdala, notre grand second rôle, est un modèle que nous devons garder présent à notre esprit. Amen. Donc la prédication est terminée, je vais avec vous prier, et puis nous en resterons là. Nous te remercions, Éternel, pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as laissé dans ta parole des récits qui peuvent, pour certains d'eux, nous servir d'exemple. Et ce matin, tu as placé devant nos yeux le récit de plusieurs aspects de la vie de Marie de Magdala. Tu nous as montré que cette vie était marquée par le goût du service, par un amour sincère pour ta personne et par l'engagement dans le témoignage pour toi. Nous te prions que tu agisses dans nos vies, pour que nous soyons habités, à l'exemple de Marie de Magdala, par un goût marqué pour le service, par un amour débordant et par un zèle dans le témoignage pour ta personne et ton œuvre. Comme Marie de Magdala, nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous disons « Rabouni », ce qui veut dire « Maître ». Nous te prions donc que par l'action du Saint-Esprit dans notre vie, notre service, notre amour, notre témoignage soient des réalités bien visibles autour de nous et aussi des réalités de nature à satisfaire tes attentes dans ces domaines. Amen.